et sur le plateau, Hermine Zonsongbo, professeure au Fonds monétaire international et sociologue. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous.
Bonsoir.
Merci.
Alors Hermine, je commence avec vous. Vous avez entendu comment ces femmes ont défini le harcèlement? Qu'entend-on réellement par harcèlement sexuel?
Ben, il faut d'abord dire que je félicite toutes ces femmes qui ont pu donner une définition à ça, parce que jusque-là, on se dit que les femmes ne savent pas vraiment ce que c'est que le harcèlement sexuel, mais on trouve maintenant que ça change de plus en plus. Le harcèlement sexuel, c'est tout comportement qui a rapport, qui défavorise la femme, et des comportements, je dirais comportement beaucoup plus sexuel, que ce soit comportement physique ou verbal, ayant à l'encontre ou ayant rapport à l'aspect au corps ou tout ce qui a rapport au sexe de la femme. C'est ce comportement. Mais ce qui est important ici de retenir, c'est le fait que c'est souvent le harcèlement sexuel, et quand c'est impromptu, c'est là où il y a le problème.
Impromptu, c'est-à-dire?
C'est-à-dire que vous n'êtes pas d'accord avec ce qui se passe.
D'accord. Je vois donc qu'il y a le fait de ne pas vouloir.
Oui, c'est ça. Parce qu'on dira dans notre culture que, oui, la femme, il faut insister. Il faut insister avant qu'elle n'accepte. Mais du moment où la femme sait ce qu'elle veut et qu'elle vous dit non, je ne veux pas, il ne faut pas le faire. Vous pouvez essayer une fois, mais quand même, il ne faut pas aller jusqu'à 3-4 fois. Oui. Donc, c'est le fait d'insister et de chercher à avoir des faveurs sexuelles auprès d'une femme.
Oui. Selon l'Organisation internationale du travail, ils disent que il y a cette notion aussi de contrepartie sur le lieu du travail. Ils disent que quand il y a un avantage, les gens, pour un avantage professionnel, une augmentation, une promotion, elle est accordée en échange si la victime accepte aussi de faire des choses sur le lieu du travail. En tout cas, l'Organisation internationale du travail pointe bien le doigt sur le fait de cette domination, victime et un supérieur hiérarchique et cette contrepartie. Vous avez un parcours particulier parce que vous avez cette dualité, vous êtes d'origine béninoise, vous êtes ici aux États-Unis. Vous avez suivi de très près le mouvement MeToo. Ici. Quel regard vous portez maintenant sur ce mouvement qui s'appelle le Même Pas Peur, ce mouvement africain?
Bon, déjà, d'entrée de jeu, je peux dire que je salue ou bien je loue l'effort de ces femmes-là qui ont eu le courage de se mettre devant le public après toutes ces années pour parler de ce phénomène. Ça a été la même chose avec le MeToo qui a commencé déjà en 2006 et ce n'est qu'en 2016 que le mouvement s'est éclaté, que le mouvement a éclaté. Bon, maintenant, on voit que ce même phénomène-là commence de plus en plus en Afrique, surtout l'Afrique francophone, parce que déjà, je pense qu'en Afrique anglophone, il y avait quelqu'un, un des acteurs du Nigeria, qui avait déjà écrit une lettre ouverte par rapport au phénomène, bien avant même que cela ne s'éclate aux États-Unis. Bon, il n'y a pas eu, c'était tombé dans des oreilles de sourds. Bon, maintenant, on espère que ça va pas être la même chose ici, que ce mouvement qui est très très louable et qui est en fait un début pour signaler un problème social qui a existé pendant longtemps en Afrique et qui continue d'exister. On ne peut pas dire qu'on peut régler ce problème-là du jour au lendemain. Ça n'a pas été réglé du jour au lendemain aux États-Unis, même pas en France. Alors bon, mais c'est déjà un effort qu'il faut louer du fait qu'elles sont venues, ces dames-là, pour parler de leurs expériences. Donc cela, merci, cela peut encourager d'autres femmes à faire pareil, ce serait vraiment bien.
Merci beaucoup. Certains brandissent la carte de la différence culturelle et ils pensent que la dénonciation du harcèlement sexuel, c'est plutôt une problématique occidentale. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, je pense tout d'abord que les femmes en Asie, en Amérique du Sud et en Afrique ont tout aussi conscience qu'en Occident que le harcèlement il est structurel. Elles souffrent tout autant que les occidentales, et dire que la dénonciation c'est une problématique occidentale est pour moi une véritable erreur, car les souffrances sont les mêmes où que l'on soit dans le monde. Après, les modes d'expression ils sont complètement et juste différents. On parle beaucoup des
réclame.
Aussi, la parole sur les violences sexuelles et le harcèlement a du mal à être prise en compte et à être globale, entre guillemets. Elle s'est faite surtout dans des structures et dans des sphères socio-économiques plutôt privilégiées, et sur Internet également. Alors que moi, j'aimerais rappeler qu'en Afrique, Internet n'est pas trop accessible encore aujourd'hui, et que les femmes, elles trouvent d'autres moyens d'en parler, etc., dans les structures, dans ce qu'on peut appeler les tontines aussi, dans les réunions de femmes, etc. Donc elles en ont conscience, elles essayent d'en parler, mais c'est les modes d'expression qui sont différents.
Alors vous, ces femmes, vous les avez suivies, vous avez tourné un film sur les violences sexuelles de Bamako à New York en passant par Paris, qui s'appelle Mouniou Nissabali. Déjà, tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire? Et puis, quelles sont les situations qui reviennent le plus souvent dans ces témoignages-là que vous avez recueillis?
Alors, Mouniou Nissabali, en bambara, ça veut dire supporter et pardonner. C'est un principe éducationnel qu'on édicte aux enfants, mais surtout aux femmes, où on leur explique que dans la vie, il faut tout supporter et tout pardonner pour que la descendance, entre guillemets, et la baraka ait des bénédictions sur elle, en fait. On impose aux femmes, finalement, de tout accepter, malgré les dérives, qu'elles soient sexuelles, d'ordre comportemental, etc. Et du coup, ça fait que les violences sont un peu plus tues que dans le monde occidental, ou un peu plus taboues, finalement. Même si tout le monde en a conscience, et même si tout le monde est là. Et justement, j'ai été confronté à ça dans le film, parce que vous l'avez très bien dit, ce film s'inscrit dans différents portraits de femmes qui sont à Paris, New York et Bamako, mais c'est des femmes de la communauté malienne. C'est des femmes qui ont été éduquées dans ce sens-là aussi. La difficulté qu'elles ont toutes, c'est aussi et surtout d'en parler à leurs proches, à leur famille, etc.
Mais qu'est-ce qui les empêche d'en parler à leurs proches? Qu'est-ce qui les empêche de le dénoncer?
Alors, ce qui les empêche, c'est le poids social, finalement. Ce qui les empêche de dénoncer ça, c'est véritablement le poids social. Parce que quand on a été éduqué d'une certaine manière, pendant toute sa vie, et qu'on te dit, eh ben voilà, il faut te taire, finalement, toutes ces épreuves, ce sont des épreuves de femmes, les femmes, elles en ont conscience, et du coup, il y a un gros travail psychologique à faire. On parle beaucoup de psychologie dans le film que j'ai fait, parce que la reconstruction, finalement, elle passe aussi par là, elle passe par la prise de conscience de l'acte qui a été commis, parce que les hommes sont éduqués comme des petits rois, et finalement, il n'y a pas de justice, donc du coup, ils n'ont pas de honte, ils se glorifient parfois, souvent, à harceler ou à agresser sexuellement des femmes. Et les femmes, justement, on leur montre qu'elles doivent tout subir et tout supporter des hommes. Donc du coup, psychologiquement, c'est très difficile pour elles, et ce qui les pousse à garder ça pour elles et dans le silence, alors qu'elles aimeraient être accompagnées par les structures de police ou par la justice pour porter plainte et pour confronter leur bourreau.
On en reparlera. Merci beaucoup, Kaourou. Hermine, donc on voit bien que c'est pas que dans le cinéma, tous les milieux semblent être touchés. Ça se passe dans les établissements scolaires avec les notes, ce qu'on appelle les notes sexuellement transmissibles. Ça se passe sur le lieu de travail, ça se passe même dans les églises, hein, avec des pasteurs qui ont des fois des pratiques assez douteuses. Et pourtant, on n'en a pas vraiment parlé en Afrique. Alors, est-ce que le mouvement Même Pas Peur, un mouvement africain, il doit se différencier pour s'adapter aux spécificités africaines?
Le mouvement en lui-même, je pense, oui, que le mouvement doit tenir compte, en fait, des réalités africaines. C'est vrai qu'il y a un point commun, c'est l'abus. Et ça, pour ça, bon, il n'y a pas de différence à faire. L'abus est à punir. Un abus, c'est un abus. C'est aussi, que nous soyons en Afrique ou au Japon ou en Chine, un abus, c'est un abus. Il faut que cela soit puni. Mais en tant que mouvement, oui, pourquoi pas le mouvement, puisque nous avons nos réalités africaines. Et si les autres ont mis autant de temps pour en arriver là, bon, je pense qu'il faut donner ce temps aussi aux Africains. Pas autant de temps. Les Africains auront l'occasion aussi d'apprendre des autres pays qui ont déjà accepté la chose, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et à partir de ce moment, bon, associer ça à leur réalité culturelle et associer ça aux problèmes déjà sociaux qui sont là.
Kaourou Magasa, quel peut être l'impact de harcèlement sexuel répété sur la vie d'une jeune fille ou d'une femme?
Alors l'impact, il est terrible. Psychologiquement, les femmes, en tout cas certaines femmes que j'ai rencontrées, elles sont brisées. Il y a aussi une perte de confiance aussi vis-à-vis des êtres humains et vis-à-vis des hommes, finalement, parce que le rapport, il est complètement biaisé. Elles en souffrent complètement. Psychologiquement, c'est très dur. Il y a des rêves, il y a des cauchemars, il y a des situations de stress, etc. Parce qu'il faut rappeler aussi, il faut préciser que le viol, c'est le pire système d'avilissement d'une personne envers une autre, en fait. On lui prend sa chair, on lui prend son corps.
Là, vous parlez de viol, donc est-ce que vous pensez que les mêmes le harcèlement sexuel et le viol ont les mêmes conséquences ?
Le harcèlement sexuel a les mêmes conséquences que le viol, mais il est plus diffus dans un sens. Il peut être aussi dramatique pour la conscience des personnes, etc. Autant qu'un viol, finalement, parce que c'est une pression qui est constante, etc. Quand une femme est confrontée au harcèlement continuellement, je pense que ça peut jouer sur sa confiance, je pense que ça peut jouer sur son état psychologique et du coup sur son travail et sur son rapport avec les autres. Après, c'est des constantes qui sont peut-être plus diffuses et moins brutales qu'un viol, mais elles sont tout aussi traumatiques.
Merci. On revient après une courte pause pour pouvoir parler de comment réagir face au harcèlement sexuel. Pour la seconde partie de Washington Forum, Raissa Girondin toujours en votre compagnie avec nos invités en direct de Bamako via Skype, Kaoru Magasa, auteur du film Mounio Nisabali et journaliste. Et sur notre plateau, Hermione Zonsoubo, professeur et sociologue. Nos téléspectateurs ont réagi en ligne. Quelques commentaires Facebook. Alphonse Mbouaki de la République démocratique du Congo dit « Le harcèlement sexuel n'a pas la même gravité en Afrique qu'en Occident. Quand la victime le dénonce, on le banalise. Beaucoup de femmes ne libèrent pas leurs paroles de peur de perdre leur emploi ou de compromettre leurs notes. Si l'auteur est patron ou professeur à l'université, c'est pourquoi il faut des lois punissant les auteurs et protégeant les victimes quand elles libèrent la parole. » Hassan Omar de Djibouti dit « Le harcèlement moral ou sexuel existe bel et bien en Afrique. Nos mères et sœurs doivent en être protégées, mais le dénoncer reste une chose difficile, surtout lorsqu'on connaît le fléau du chômage et le poids de l'honneur de la famille. » Et Lambert Chileux de la RDC dit « La solution, c'est la prise de conscience de chaque individu, savoir que cette pratique est un péché, un crime et une infraction grave. » Alors Hermine, pouvez-vous réagir face à ces commentaires ? On a parlé beaucoup de chômage, de conséquences aussi, même sur les notes des élèves. Donc on voit que l'impact aussi il peut être économique.
Oui, l'impact est non seulement économique, mais déjà il faut partir de la base. Comme le journaliste l'a mentionné tout à l'heure, il y a l'impact psychologique qui est très très fort, bien sûr. Mais aussi, il faut voir l'impact social du harcèlement social, du harcèlement sexuel. Donc parlons par exemple sur le plan social, il y a les représailles, il y a le regard que la société a sur vous,
la stigmatisation,
le fait que vous ne représentez rien dans la société. Et puis sur un plan éducationnel, vous ne pouvez pas continuer vos études. On a vu des filles de vraiment bas âge qui ont dû abandonner les cours déjà au collège simplement parce que le professeur est en train de demander des faveurs sexuelles auprès de cette fille-là, ben parce que elle ne peut pas dire oui, donc elle a dû abandonner les cours. On va au niveau des apprentissages, c'est la même chose. On va au niveau universitaire, qui est un grand problème en Afrique. La plupart des jeunes filles sont obligées de glisser la patte avant qu'on leur donne les notes qu'elles méritent, même si elles sont des femmes très intelligentes, qu'elles peuvent réussir dans leurs études. Il y a aussi ce phénomène qui les bloque, qui les empêche de continuer.
Je voudrais juste souligner, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des femmes, mais que le harcèlement sexuel peut toucher aussi des jeunes garçons et des hommes. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a vraiment ancré sur la femme, parce que c'est la semaine des droits des femmes, mais que ça touche aussi même les jeunes garçons.
Ça touche, malheureusement, ça touche également les garçons comme ça touche les hommes. Et c'est un problème qui n'est pas strict ou lié seulement à un sexe. Seulement que les statistiques montrent aujourd'hui qu'il y a plus de femmes.
La femme est plus vulnérable.
Voilà, la femme est plus vulnérable. Les femmes sont beaucoup plus touchées par le problème que les hommes. Donc il y a aussi le problème économique. Aujourd'hui, on parle d'inclusion pour un meilleur développement. Mais une femme qui, au niveau professionnel, subit le harcèlement sexuel, elle ne peut pas avoir la promotion dont elle a besoin, etc. Bon. Et en plus de ça, c'est la victimisation de ce phénomène, c'est-à-dire surtout la victimisation secondaire. C'est quand il n'y a pas des recours judiciaires pour ces femmes-là. Donc,
justement, je voulais poser cette question à Kaourou. Est-ce que au Mali, les femmes trouvent des réponses par les voies judiciaires? Qu'est-ce qu'il en est des législations là-bas?
Alors, sur les questions du harcèlement, etc., effectivement, il y a des lois parce que c'est des délits qui sont punis, etc., par le système judiciaire. Après, il est difficile de passer du cadre de où on voit l'acte qui est commis, etc., à la dénonciation judiciaire, parce que les personnels de justice sont pas forcément bien formés, etc., sur les questions de harcèlement. On est dans une société qui est complètement paternaliste, donc du coup, les juges, les magistrats et les policiers ont du mal à comprendre ces questions, finalement, de harcèlement sexuel. Après, sur la question du viol, le viol est considéré comme étant un crime au Mali. Il y a un délai de prescription qui est de 10 ans pour les auteurs retrouver et pour déposer une plainte pour les femmes. Donc du coup, là, il y a un cadre législatif qui est plutôt certain, qui existe. Mais le grand problème, c'est l'application finalement de ce cadre législatif, parce qu'il n'est pas appliqué correctement au Mali.
Et Hermine, du côté du Bénin, qu'est-ce qu'il en est?
Le Bénin a également des lois par rapport au harcèlement sexuel, au viol, et même pour quelqu'un qui est témoin du harcèlement sexuel, ce qui est vraiment bien. Bon, c'est une loi qui existait depuis 2006 et des efforts ont été faits dans ce sens. Et je crois qu'avec le nouveau gouvernement, ils essaient de faire des efforts dans ce sens également, surtout avec le nombre de grossesses qu'on a vues dans les écoles ces dernières années au Bénin, sur des filles qui ont dû laisser les bancs parce qu'elles ont été harcelées et puis sont tombées finalement enceintes et qui ne pouvaient pas poursuivre leurs études. Donc le gouvernement est en train de sévir par rapport à ça. Donc un professeur qui est coupable de la chose, du harcèlement vis-à-vis de son étudiant, je crois, doit payer entre 100 000 francs à 1 million de francs CFA, etc.
Merci. Alors comment réagir en cas de harcèlement? Notre correspondant à Kinshasa est allé à la rencontre de femmes en République démocratique du Congo pour leur poser la question.
La meilleure façon de réagir sur les harcèlements sexuels, je dirais que c'est à deux niveaux. Au niveau professionnel, dans le milieu professionnel, et on peut toujours briser ce silence. On se retrouve femme dans un milieu où on se dit non, parce qu'on est femme, parce que peut-être mon boss Marcel, parce qu'il veut de moi, il veut abuser de moi, et on se dit non, je ne peux pas le dire, je reste calme. Et pour ne pas perdre mon boulot peut-être. Mais je dirais que cela peut amener beaucoup et beaucoup de choses. Aujourd'hui peut venir, demain ça va générer sur des violences. Et celui qui sera victime, c'est toujours la femme.
Personnellement, moi, si je suis harcelée sexuellement dans un milieu professionnel, prenant les cas peut-être par exemple de ma chaîne de télévision, je vais tout d'abord intéresser le directeur général, directeur des ressources humaines. Et si je vois qu'il n'y a pas de solution, si je ne trouve pas une bonne cause, là au moins je pourrais aller voir les instances judiciaires ou bien les autorités compétentes.
bon, qui peut rendre justice.
Moi, je pense que ce sont des choses qu'il faut dénoncer. Il faut d'abord dénoncer, il faut commencer par dénoncer. Mais avant de dénoncer, moi, je pense qu'en tant que femme, comme je l'ai dit, nous avons généralement un grand cœur. Ce sont des choses qu'il faut aussi gérer, bien le gérer pour ne pas apporter des problèmes aux uns et aux autres. Mais lorsque, comme je l'ai dit aussi, lorsqu'elle commence à nuire, il faut dénoncer, parce que lorsque vous dénoncez, vous êtes en train aussi de mettre la personne qui le fait face à ses responsabilités.
Je demanderai à toutes ces femmes-là qui sont harcelées au milieu professionnel, dans le milieu professionnel, de pouvoir dénoncer, de ne pas craindre la perte de leur emploi. Parce qu'elles sont compétentes, elles ont des diplômes, elles peuvent solliciter de l'emploi ailleurs et en trouver.
Kaou, si vous avez entendu toutes ces réactions, selon vous, comment faudrait réagir donc face au harcèlement sexuel?
Alors, quand on est harcelé, les femmes l'ont répété, les femmes que j'ai entendues dans ce micro-trottoir, il faut le dénoncer, tout simplement. Mais en plus de le dénoncer, c'est tout d'abord en parler à ses proches, en parler dans le cadre de son travail. Il y a une personne qui a dit qu'il fallait en parler à la DRH, etc. Mais ce qui est important, après en avoir parlé pour ces femmes, c'est aussi que le reste de la société, notamment les hommes, réagissent véritablement en ayant beaucoup plus d'empathie vis-à-vis des femmes, en les écoutant mieux et parce que c'est des réalités, c'est des vécus, il faut les croire ces femmes, il faut aussi leur donner la liberté de parole. Et je pense que si 50% de la société, c'est-à-dire les hommes, étaient beaucoup plus empathiques et beaucoup plus à l'écoute vis-à-vis des harcèlements qui étaient subis par les femmes, cela pourrait tendre à faire réduire le harcèlement sexuel.
Merci beaucoup. Hermine, comment réagir en cas de harcèlement?
Je pense que... selon moi, le harcèlement, c'est constant. C'est à tous les niveaux de la vie. Je crois qu'à un moment ou à un autre, toutes les femmes, ou presque toutes les femmes, ont eu à vivre ça à un moment ou à un autre. Mais c'est réagir par rapport à ça, je pense que ça dépend des circonstances. Si j'entendais tout à l'heure quelqu'un dire qu'il faut aller voir son supérieur hiérarchique, si c'est le supérieur hiérarchique, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, je pense qu'il faut trouver des stratégie. Mais le plus important...
Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Là, il nous reste très peu de temps, mais qu'est-ce qu'il pourrait faire changer les choses?
Moi, je pense qu'il faut, des lois. Il faut des lois dans les pays et il faut respecter, il faut mettre ces lois-là en pratique. Aujourd'hui, beaucoup de pays africains n'ont même pas de loi qui punisse le harcèlement sexuel.
Donc, c'est vraiment mettre ces gens-là en quarantaine. Ah,
c'est
ça.
Et c'est vraiment dommage, oui. C'est vraiment dommage. Donc, quand il y a une loi, il faut qu'il y ait des lois et il faut mettre ces lois en pratique. Et il ne faudrait pas aussi que ceux qui sont chargés de gérer ces crises-là se transforment en des éléments sexistes vis-à-vis de ces femmes, parce que sinon, autrement, ça n'aura aucun effet. Elles vont penser qu'elles sont en train de crier dans le désert. Il n'y a pas un répondant. Donc, il faut bien évidemment des personnes ou des structures dans toutes les sociétés qui encouragent les femmes à dénoncer. Bon, c'est vrai, ici, on a le MeToo, on va écrire...
Là, qu'est-ce qu'elle doit faire de plus? Parce qu'il y a des structures en Afrique qui existent. Hein. Qu'est-ce qu'elle doit faire de plus?
Oui, des structures existent depuis. Mais il faut dire que la plupart de ces structures-là se focalisent, par exemple, sur les questions de viol, sur les questions de violence sexuelle, etc. Mais alors que pour aboutir à tous ces problèmes-là, il faut déjà passer par le harcèlement sexuel. Donc il faut que ces structures-là aillent à la base.
C'était le mot de la fin. Donc, cette on passe par le harcèlement.
Oui,
merci beaucoup, Hermione. C'est déjà la fin du débat. Merci à Kaoru Magasa et à tous nos invités. Merci de nous avoir suivis. Vous pourrez retrouver cette édition sur notre site internet et rester connecté sur notre page Facebook. Excellente suite de programme.